Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de RDIWA et pour l'interview du jour, je suis avec Michel Sifaut. Bonjour Michel.
Bonjour.
Donc vous intervenez dans le cadre de Écologie au quotidien, vous allez animer un atelier pratique d'informatique écologique et solidaire au Café Théâtre Andarta. Ça sera jeudi 29 à 14h. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter aux auditeurs ?
On va essayer. Donc, je suis un retraité, j'ai 72 ans, je suis un retraité de l'informatique, hein, j'étais ingénieur en informatique. Je suis un essayiste également, j'écris beaucoup, j'ai déjà écrit 15-16 livres qui sont en téléchargement gratuit sur mes sites. Et j'ai pris conscience de l'importance de la fracture numérique. Et donc, je souhaiterais qu'on mette en place sur DIL un atelier d'assistance pour les gens qui ont des problèmes en informatique.
D'accord. Donc, ça serait quelque chose qui serait de l'ordre du rendez-vous un peu régulier.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Avec une association comme la Corderie, par exemple.
Oui, bien sûr. Et en quoi est-ce que c'est important pour vous de se détacher de tout ce qui existe actuellement sur les grandes plateformes ?
Parce que j'ai pu constater qu'elles étaient plutôt aliénantes. Alors, je prends un exemple bien connu aujourd'hui à la mode, c'est l'IA.
Oui.
J'ai vu plusieurs utilisateurs, employés. Et à chaque fois, ils exécutaient les instructions sans jamais comprendre ce qu'ils faisaient. Et pire, c'est qu'ils ne cherchaient pas de comprendre après. Ils se contentaient du résultat qui était obtenu. Alors qu'avant, c'était des gens qui réfléchissaient souvent. Et du fait de recourir systématiquement à l'IA, ils commencent à ne plus réfléchir. Donc ça commence à m'inquiéter quand les gens ne réfléchissent pas.
Ah ça se comprend, oui. Oui, il y a une espèce de pack où on amène un petit peu tout sur la table et les gens ont de moins en moins à réfléchir pour utiliser la meilleure solution.
Voilà, et c'est un peu ce qui m'inquiète avec Google, avec Amazon, avec Microsoft, tous les réseaux sociaux style Facebook, TikTok, Instagram, c'est que on réfléchit plus, on réagit. On aime ou on n'aime pas.
Ouais,
on
ne
se pose pas la question de savoir si ça a un sens ou si ça n'en a pas.
Oui, je comprends. Il y a un côté très aliénant là-dedans.
Voilà.
Et lorsque vous parlez d'informatique écologique, qu'est-ce que vous entendez dans cette définition ?
Disons que la pratique, c'est essayer de gaspiller le moins d'énergie possible. Et de faire en sorte que notre pratique informatique ne soit pas trop consommatrice d'énergie. Alors ça suppose éteindre les ordinateurs, ça suppose ne pas les utiliser, utiliser son téléphone par exemple en mode avion, parce qu'en mode avion il y a beaucoup moins de communication de données, d'envoi de données que quand on n'est pas en mode avion. Et on a tout autant de services. Donc, c'est des petites choses comme ça qui permettent de réduire la consommation d'électricité et donc l'impact sur le système, puisque quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 200 millions de serveurs qui sont en service et que ça représente des centaines de centrales nucléaires.
Ah oui, voilà. Et puis, il faut une quantité d'énergie phénoménale pour les garder à température ambiante.
Tout à fait. Et ça consomme également de l'eau. On cite souvent l'exemple de Google, qui utilisait plusieurs millions de litres d'eau pour refroidir ses ordinateurs. Mais bon, Google, comme ils sont un peu écologistes, ils font ça avec de l'eau recyclée, donc ils ne gaspillaient pas trop. Par contre, Microsoft ou Amazon, eux, ils ne font pas ces efforts-là. Donc, il y a un problème de... participation au réchauffement climatique, puisque l'eau réchauffée, ben ça, c'est pas une bonne chose, quoi. Ça entraîne la prolifération d'algues, ça entraîne la disparition de certaines espèces de poissons, etc.
D'accord. Et donc, à travers l'atelier que vous allez mener à 14h jeudi 29, vous parlez de solutions qui existent.
Alors, il existe, il y a des solutions en France. En Drôme, il n'y en a qu'une. C'est une association loi 1901 qui se trouve à Beaufort-sur-Jarvanne, qui s'appelle l'Association pour une informatique libre et qui propose un hébergement, mais pour le moment, il se limite aux communes qui entourent Beaufort-sur-Jarvanne pour justement pas avoir un impact écologique trop important.
D'accord. Donc ils ont des serveurs propres à eux?
Tout à fait. Ils ont leur propre serveur.
D'accord. D'où l'intérêt de localiser les gens qui vont être hébergés sur leur plateforme.
Voilà, tout à fait.
Donc ça déjà, c'est encourageant de savoir qu'il existe une solution en Drôme. Il doit certainement en exister des similaires dans d'autres régions. Est-ce que vous avez
Oui.
peut-être des contacts avec d'autres personnes qui font un peu le même travail que vous dans d'autres régions de notre pays?
Ben, j'ai des contacts avec l'association Framasoft,
D'accord.
dont je fais partie, et qui pilote un peu toutes ces installations en France. Il y a plus de 200 installations de ce type qui existent.
Plus de 200 sur le territoire, ce qui est pas mal. Et donc, c'est dans cette volonté de se détacher des GAFAM.
Tout à fait.
Donc, on rappelle aux auditeurs que les GAFAM, c'est l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
Oui.
Parce que voilà, tout le monde ne connaît pas bien encore tout ça, et donc c'est intéressant pour les auditeurs de bien saisir tous les tenants et les aboutissants. Donc vous allez venir pour parler de tout ça.
Tout à fait.
Et je vois donc sur la description du programme de Écologie au quotidien que c'est une présentation interactive.
Ben, j'espère bien parce que j'aurai du mal à parler pendant 1 heure et demie. Donc j'espère que je vais être interrompu souvent. Je compte montrer des exemples concrets et j'espère qu'on va me poser beaucoup de questions de façon à pas avoir une extension de voix au bout d'une heure
Oui, bien sûr,
de
je comprends.
présentation.
En fait, vous êtes un peu militant quelque part. Ça fait longtemps que vous militez pour cette informatique écologique et solidaire?
Ben, ça fait 20 ans donc que je fais ça. Et puis alors sporadiquement parce que bon je milite pour différents. Je suis pas un monomaniaque qui a qu'un centre d'intérêt. J'ai plusieurs centres d'intérêt. Donc tantôt je m'occupe plus d'une association ou de l'autre. Il y a 5 associations qui m'intéressent donc. C'est épisodiquement, j'y reviens et j'essaie de trouver des gens qui prennent le relais parce que je suis, compte tenu de mon faible niveau d'énergie, je ne peux pas être un militant très actif 7 jours sur 7, 12 mois sur 12.
Pour vous aider, vous relayer sur cette voilà sur
Eh
cette information.
ben, ça arrivait quand j'étais à Grenoble, c'est arrivé à Arles. Ça dépend. C'est pas évident. Mais depuis que je suis dans le DIY, j'ai trouvé personne, mais j'ai cherché personne. C'est depuis que ça fait 3 ans que je suis dans le DIY, et c'est la première année où je commence à me laisser à ce niveau-là.
Ah oui, d'accord.
Et essayer de motiver des gens et me motiver moi-même pour agir efficacement.
Ah, peut-être que le festival Écologie au quotidien, c'est justement le bon lieu pour trouver des gens pour venir continuer
C'est
cette action.
l'objectif. C'est mon objectif.
Ouais, je
Si
comprends.
j'arrive à trouver quelques personnes pour travailler avec moi sur ces choses-là, ben je serai très satisfait.
Ah bah je comprends. C'est la première année que vous participez à ce festival.
Alors, je l'ai visité l'an dernier, mais je suis venu, j'ai assisté à 2 conférences, mais c'est la première année que je participe activement, oui.
Oui, on peut dire qu'en plus, ce que vous proposez a complètement sa place au sein du festival Écologie au quotidien.
Bah, tout à fait, puisque c'est l'éducation, l'écologie au quotidien, c'est bien ce que je fais, c'est de l'écologie au quotidien.
Ben
C'est
oui, et
pas
puis.
de la grande théorie.
Non, non, bien sûr. Et puis en plus, tout le monde aujourd'hui a un ordinateur portable, a un smartphone. Donc
Alors,
tout le monde est concerné.
Pas tout à fait. Comme je le dis dans mon truc, il y a 91% de la population qui a un smartphone.
Ah oui,
Et
d'accord.
84% qui a un PC portable ou fixe.
Ah oui, d'accord. Donc ça laisse quand même.
Enfin, bon, ça fait beaucoup.
Bien sûr. Parce que, outre le problème que vous citez, il y a aussi ce problème du matériel qui peut devenir obsolète et qui entraîne donc le rachat de nouveaux matériels à chaque fois.
Voilà. Et là, c'est ce que j'essaie de prévenir les gens parce que les matériaux reconditionnés sont excellents. La plupart des ordinateurs qu'on fabriquait à 20 ans suffisent largement pour aller sur Internet, poster sur les réseaux sociaux ou autres. On n'a pas besoin de machines très performantes. On a besoin de machines performantes quand on veut faire du gaming. Mais les machines d'entrée de base qu'on a, ou même les vieilles machines, sont toujours opérationnelles pour travailler sur Internet. Ce qui empêche de le faire, c'est que Windows, qui est le système le plus utilisé, est de plus en plus gourmand et exige des machines de plus en plus puissantes. Mais on peut très bien, avec d'autres systèmes d'exploitation, comme Android, comme Linux, arriver à faire la même chose avec des machines beaucoup moins puissantes. On n'a pas besoin d'une puissance phénoménale pour travailler dans l'informatique aujourd'hui, pour communiquer avec les administrations ou avec les banques.
Et quelle est votre vision sur ces systèmes d'exploitation comme Linux, qui semblent être des choses peut-être plus démocratiques comme solution?
Ben, je suis ce qu'on appelle un Linuxien pas fou. Il y a des Linuxiens fous qui ne jurent que par Linux, qui voient
Oui,
Linux partout,
oui.
et je suis quand même conscient que Linux, que toutes les distributions qu'il y a sont très peu ergonomiques. À part Android, qui est un Linux, et que tout le monde utilise sur son téléphone, sur sa tablette, sans le savoir, les autres sont peu ergonomiques. Donc, c'est vrai que c'est plus démocratique, mais c'est moins accessible qu'Android ou Windows. Donc, je suis moyennement convaincu de l'intérêt de pousser les gens vers Linux, parce que ça demande un effort intellectuel colossal.
Oui, parce que l'interface est peut-être pas simple.
Elle n'est pas simple,
Ah
voilà.
oui, je comprends.
Et au lieu de proposer un logiciel, ils en proposent toujours trois ou quatre. Donc, comment choisir, lequel choisir, que faire, c'est toujours le problème.
Et j'imagine, vous aviez précisé que vous étiez retraité.
Oui.
Et donc, pour les personnes qui n'ont pas votre connaissance sur le sujet, mais qui sont retraitées également, c'est pas simple, hein, tout cet univers.
Ben non. Je vois bien, puisque j'aide des retraités, les retraités de ma famille, à gérer leurs ordinateurs, leurs problèmes avec l'administration, avec les banques, avec les différents interlocuteurs, les problèmes qu'ils ont quand ils veulent utiliser Internet ou les mails, parce qu'ils ne savent pas lire l'écran, parce que voilà, il y a tas de petits problèmes comme ça.
Ben oui, et puis avec la dématérialisation généralisée, ça devient de plus en plus compliqué de ne pas passer par là.
Tout à fait, tout
Ouais.
à fait. C'est le problème, c'est une des raisons de ma motivation, c'est ça, c'est que j'ai pris conscience en aidant les membres de ma famille, plus âgés que moi, puisqu'ils ont 80, 90 ans, de leurs difficultés à travailler avec l'ordinateur, à obtenir des documents tout simples. Donc, j'ai essayé de développer une pédagogie pour aider
Ah oui,
dans ces cas-là.
d'accord. Parce qu'une fois que vous passez le temps nécessaire à leur expliquer, est-ce que par la suite ils arrivent à être un peu autonomes?
L'autonomie, ça ne peut s'acquérir que par la répétition.
Ah
C'est
oui.
un des principes pédagogiques de base. Et si on peut apprendre des leçons, faire des exercices, c'est pour assimiler les choses. Or, le problème, c'est que quand on utilise l'ordinateur une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, quand il y a une sollicitation administrative, ben, on n'a pas le temps d'assimiler, quoi. Il faudrait qu'il s'entraîne régulièrement pour pouvoir se autonome.
En réaction à toute cette sollicitation, est-ce que vous voyez des dangers donc à être de plus en plus sur ces écrans et donc d'être complètement dépendant de tout ça?
Ben, le danger que je vois, c'est le jour où on ne pourra plus faire ça. On sera complètement désorienté, parce qu'aujourd'hui, sans informatique, on est complètement coincé et on ne peut plus vivre pratiquement si on n'a pas un ordinateur, quoi. Ça devient de plus en plus difficile. Je vois le travail que ça représente pour obtenir un papier ou pour faire un papier. pour aller dans une banque obtenir un document, c'est colossal. Ça demande un temps et une énergie que n'ont pas forcément tous les retraités, et même les plus jeunes d'ailleurs. Donc,
Bah oui, parce qu'on parlait des
effectivement.
retraités, mais les plus jeunes qui sont nés donc avec les smartphones et les ordinateurs, bah, j'imagine que s'ils ont plus cet outil, ils sont un peu perdus.
Ah, c'est rien de le dire.
Eh oui.
C'est rien de le dire, puisqu'ils en arrivent à ne plus savoir calculer parce qu'ils comptent sur la calculatrice de leur téléphone pour faire le travail, quoi.
Est-ce qu'on peut parler d'un appauvrissement intellectuel éventuellement?
Moi, j'en suis convaincu. Pour l'avoir observé chez plusieurs personnes. Alors, je ne peux pas généraliser, parce que la généralisation, ça supposerait que j'ai vu plus d'un millier de personnes. Je l'ai vu que chez 5 ou 6 personnes, mais je pense qu'il y a un appauvrissement de la pensée. On commence à se fier plus aux ressentis, aux émotions, aux j'aime ou j'aime pas, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de réfléchir sur la pertinence des choses. Et ça, c'est un appauvrissement de la pensée qui est quand même important.
Oui, parce que on a déjà vu des jeunes ne pas savoir comment faire ceci ou cela et poser la question à l'intelligence artificielle.
Tout à fait, oui. Moi, je l'ai vu faire. Et j'ai même eu une lycéenne qui me disait, ah, c'est très bien, ça m'a permis d'augmenter mes notes, mais je ne comprends pas les devoirs que je rends. Donc, je pense plus, je réfléchis plus, je me fie entièrement à ChatGPT, puisque c'était ChatGPT qu'elle utilisait.
Donc elle en avait quand même conscience.
Elle en avait conscience, mais elle était dépendante, elle était accro, comme on dit.
Donc il y a un réel souci à libérer les jeunes de cette accoutumance aussi peut-être.
Ben, je ne sais pas si c'est difficile, mais je sais que c'est un souci dans les entreprises, puisque j'ai eu plusieurs réactions il y a déjà quelques années, quand j'étais encore en activité, de patrons qui me disaient que c'est devenu de plus en plus difficile de trouver un salarié qui ne soit pas accroché à son téléphone au lieu de travailler.
Ah oui, et ça c'était il y a
Dans
déjà.
les jeunes de moins de 20 ans, de moins de 25 ans plus exactement. C'était en 2018.
Et forcément, ça ne s'est pas arrangé dans l'autre sens, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Donc tout le challenge constitue à comment faire pour encourager ces jeunes personnes à lâcher un petit peu ce téléphone pour faire des choses avec leur esprit, avec leurs mains.
Voilà. Et c'est un challenge colossal.
Mais est-ce que on a bon espoir qu'on puisse arriver à réussir ce challenge?
Je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis sceptique, mais
Ah oui.
il faut toujours garder de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, soyons optimistes.
Oui, bien sûr. Et ce qui compte, c'est de propager l'information au maximum, d'éduquer un peu les masses. Et
Bah,
c'est.
je sais pas si c'est éduquer les masses, mais ce qu'il y a, c'est que on se trouve dans une dynamique un peu complexe, parce que quand on a des gens qui sont accros à quelque chose, les faire changer, ça demande du temps. Pour faire changer un individu, ça demande des semaines de travail. Alors pour faire changer des centaines, des milliers d'individus, c'est colossal, quoi. On ne peut pas faire ça par de la propagande ou ça serait remplacer un abrutissement par un autre, quoi.
Non, mais peut-être qu'à travers des ateliers pratiques d'informatique écologique et solidaire,
Ça pourrait faire des choses.
ça pourrait être une première tentative intéressante pour par la suite fédérer des gens et continuer sur une dynamique similaire.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un des objectifs.
Eh bien écoutez, c'est un objectif qui nous parle aujourd'hui en 2026. Moi, je connais beaucoup de parents qui souffrent de voir leurs enfants complètement accros à leur smartphone. Et je pense que ça va se généraliser de plus en plus, cette inquiétude un peu des parents, des proches et de toutes ces personnes qui se disent, mais comment faire pour sortir de cette emprise?
C'est vraiment la question fondamentale. Et c'est vrai que c'est d'autant plus dur qu'il y a l'effet de groupe, l'effet d'imitation. On veut faire comme les copains, et comme les copains font, ben on ne veut surtout pas se distinguer quand on est ado.
Ah oui.
Être différent des autres, ce serait mal vu. Donc C'est un des éléments de la problématique qu'il faut voir. Il ne s'agit pas de culpabiliser les enfants en leur disant c'est pas bien ce que tu fais. C'est vraiment leur montrer qu'on peut faire autre chose de positif qui leur réussira, quoi.
Parce que c'est vrai qu'il y a des tentatives au sein du gouvernement, même en France, donc de restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Comment est-ce que vous voyez ce genre d'initiative?
Ben, disons que ça devrait être du travail des parents, ça.
Ah oui.
À mon avis, c'est pas au gouvernement d'agir de cette façon-là, c'est tous les parents qui devraient prendre ça en charge. J'ai du mal à comprendre qu'ils ne le fassent pas, d'ailleurs. Mais bon, parce que quand ça vient du gouvernement, c'est vu comme une contrainte et par les parents et par les enfants.
Eh oui, ça peut être assimilé à une punition, presque.
Voilà, tout à fait. Donc, je ne suis pas sûr que ça améliore les choses. Mais bon, c'est déjà quelque chose qui peut faire prendre conscience du problème à certains parents qui n'en sont pas conscients.
Oui, bien sûr. Ou alors qu'ils sont juste désemparés, tellement eux-mêmes sont sous l'emprise.
Ça aussi.
Eh oui.
Parce que c'est vrai que les moins de 40 ans sont nombreux à être dans cette logique, quoi.
Eh oui, bien sûr. Donc il y a tout un travail un peu d'information, d'éducation.
Oui.
Et c'est un petit peu ce que vous tentez de faire à travers cet atelier pratique d'informatique écologique et solidaire. Je le rappelle, je suis avec Michel Sifaut, informaticien essayiste. Et vous serez à 14h jeudi 29 au Café Andarta pour cet atelier pratique en espérant que ça soit le plus interactif possible. Donc allez-y et poser de nombreuses questions pour ressortir avec un maximum d'informations.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.
Vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Le soleil se couche, sur son visage il y a la lueur bleue, un écran qui hypnotise, c'est le début du nouveau, fini les billes, les rues, le monde est un fil de pixels, de liens, un labyrinthe qui se défile. Je me sens désarmé, les vieux livres ne servent plus. Comment guider un gosse dans un monde qu'on ne connaît plus? Sa porte est ouverte, mais son pont est virtuel, je vois son âme s'éloigner dans un ciel artificiel. J'ai pas besoin d'être un gardien, je serai une boussole numérique. Je lui apprends à naviguer, pas juste à se connecter. Plus qu'une barrière, je suis un guide pour son âme et son esprit. J'en suis lui son phare, son repère, son ami. Les trolls se cachent derrière des avatars, des mots qui blessent, des likes qui rendent avare. Une pression invisible pour une perfection de façade. Le corps, l'image, une histoire de parade. Le stream, la quête éternelle du loot. La dopamine qui coule, une dépendance prend la route. La vérité est noyée sous un déluge d'infos. On ne sait plus quoi croire ni où aller. J'ai vu la peur dans ses yeux un jour qu'un inconnu a parlé. J'ai compris que mon silence était ma plus grande erreur. La vie en 4K, des filtres qui redessinent son visage. Je vois le doute s'installer en dépit de son jeune âge, les influenceurs vendent du rêve, un faux idéal de vie. Je lui explique que le bonheur n'est pas un panier infini. On discute des algorithmes, de comment ils nous ciblent. Que chaque clic est une trace, chaque partage est lisible. Je lui montre comment vérifier, remonter à la source. La sagesse est sa meilleure arme, sa plus grande ressource. Parfois il est dans son monde, casque sur les oreilles. Je n'interromps pas toujours, j'admire son génie qui s'éveille. Il code des univers, crée des ponts vers d'autres mondes. Il apprend, il collabore et c'est là que j'abonde. Je lui dis l'écran est une fenêtre, pas un miroir. Ne laisse pas l'image te dire ce que tu dois voir. Il faut un équilibre, une juste mesure entre les lignes de code et la beauté de la nature. On affronte de nouvelles ombres, les voix de l'IA au téléphone. Elles lui disent quoi penser, elles le laissent seul sur son trône. Pas de place pour ses pensées, pas de place pour sa propre voix. Juste une chambre d'écho, un choix qu'il n'a pas. Je lui montre qu'une simple recherche n'est pas la destination. C'est juste le premier pas de sa propre création. Je l'apprends à questionner le code, regarder au-delà de l'écran. Avoir la main humaine derrière la machine à tout moment. Mais quand le monde devient trop fort, les notifications crient. Il peut l'éteindre, s'éloigner de la vie qu'il subit. Il a une femme et une maison, des vraies connexions qui ne se trouve pas sur un fil, ni dans une pixelisation. Sa valeur n'est pas mesurée par ses followers ou ses likes, mais par la personne qu'il devient, par le chemin qu'il se frappe. Je suis là pour éclairer, tenir la torche avec fermeté, pour être sûr que quand il sort, il est toujours prêt. Parce que la lumière de l'écran n'est pas le soleil, mais
non, non.
Alors la vraie conversation, c'est ça qui nous éveille.
Nous éveille.
Faut sentir la terre, le vent, la force de la famille. Parce qu'un filtre parfait, c'est de l'artificiel. La technologie est un outil, pas un remplaçant. Si on oublie le réel, on se perd en un instant. Je dois montrer l'exemple, être présent, ne jamais lâcher. Pour que le virtuel ne soit pas notre seule réalité. J'ai pas besoin d'être un gardien, je serai une boussole numérique.
Boussole numérique.
Je lui apprends à naviguer, pas juste à se connecter.